Et vous écoutez France Culture. Et puis, à chaque moment, la totalité positive et négative des choses. Marcel Schwab, et pas d'erreur, c'est mauvais genre. Mauvais genre qui recevra ce soir Pascal Horry, moins pour parler de l'histoire, qui est son métier, de bande dessinée ou de gastronomie, qui sont deux de ses passions constantes et plaisirs studieux, que de lui-même, et ce à propos d'un autoportrait qui sort au Mercure de France, « Jouir comme une sainte », tel en est le titre. Portrait d'un professeur grand vivant en Carmélite Pamé, tel est ce soir l'objectif de votre émission préférée. Évocation en seconde partie d'émission de l'œuvre de Valerian Borowczyk, objet d'une rétrospective au Centre Pompidou et d'un superbe coffret chez Carlotta. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Mauvais Genre. Mauvais Genre qui reçoit ce soir Pascal Horry. Bonsoir Pascal Horry.
Bonsoir François.
Voilà, vous êtes avec nous pour jouir comme une sainte.
Et autre volupté.
Et autre volupté. Ah bah effectivement, j'allais omettre la suite du titre. Quatrième passage de Pascal Horry à Mauvais Genre. Le premier, c'était il y a bien longtemps, pour parler de la loi de 49, à l'occasion de la sortie d'une thèse savante de Thierry Crépin, je crois.
Oui, le regretté Thierry
Crépin. Dont on peut saluer la mémoire. La deuxième fois, c'était pour parler de René Goscinny, là aussi. René Goscinny, dont on reparlera à la rentrée, puisqu'une grande
exposition cette année, hein,
va lui être consacrée hommage, donc on aura l'occasion d'en parler. La troisième fois, c'était Lucien Rebattet. Et la quatrième, c'est Sainte-Thérèse d'Avila et Pascal Horry. Donc vous êtes même le seul invité susceptible de venir pour Goscinny, Rebattet et Thérèse d'Avila.
Vous venez de faire mon portrait chinois.
Voilà, voilà les trois dimensions nodales, les trois dimensions essentielles, clés de Pascal Horry. En tout cas, soyez le bienvenu à Mauvais Genre, où vous serez, ma foi, en compagnie de Céline Duchesnet.
Bonsoir François.
Qui, chaque fois qu'il est question de plaisir torride, est présente parmi nous.
Enfin, en et tout autre
cas,
volupté.
Et autre volupté, en tout cas, au moins toutes les semaines pour l'encyclopédie qu'on ne va pas tarder à ouvrir, également présent, Philippe Rouillet.
Bonsoir.
J'en tremble, comment va-t-il?
Oui, très bien.
Alors Philippe Rouillet, on a quelques petites... on a des arriérés, au sens où on n'avait rien dit des Césars, on n'avait rien dit de... pas mal de choses qui sont restées.
Ah bah on n'avait rien dit des Césars, on avait dit ce qu'il n'y avait pas.
Voilà, on avait dit ce qu'il n'y avait pas, dit qu'il y avait, sinon il y a des choses à en dire.
Il
n'y
avait pas d'Octurama, notre ami Bertrand Taverny a loupé le coche aussi, le pauvre malheureux, le voyage à travers le cinéma français repart bredouille de manière assez scandaleuse. Il faudra quand même bien un jour qu'on s'y penche à Mauvais Genre sur ce film vraiment... vraiment veut, formidable.
Pascal Horry, vous qui êtes un historien de la culture et de la politique culturelle, qu'en pensez-vous du Tavernier?
J'ai joui devant ce film, parce que quand on est cinéphile, eh bien, on ne peut qu'adhérer à ça. Mais si j'ai bien compris, ça annonce une série télévisée.
Plus longue. Voilà, une série télévisée, en tout cas un DVD Blu-ray qui va paraître de manière imminente, sera un événement France Culture et nous parlerons bien évidemment.
Ah bah très bien, très bien, très bien. Mais sur le DVD Blu-ray, il n'y aura que 13 minutes de plus.
13, c'est déjà pas si mal.
Sur les 8 ou 9 heures promises.
Parfait. En tout cas, tout ce qui est Tavernier ne nous est pas étranger, donc nous en parlerons. En attendant, évidemment, moment solennel de cette émission, l'ouverture de l'encyclopédie pratique des mauvais genres. Céline, à quelle lettre avons-nous affaire en ce samedi?
Eh bien, je propose la lettre N.
La lettre N.
Comme Nina L. Paulin.
J'investis des lieux, institutionnels ou pas, pour y laisser ma marque. Donc Nina, c'est aussi un travail graphique, donc les lettres Nina, ça fonctionne assez bien pour faire du tag, pour faire des logos, etc. L. Paulin, c'est un anagramme de mon nom de famille. Donc Nina, c'est un petit peu mon alter ego féminin avec lequel je performe. Bon, la paire de bas et les talons, on va dire que c'est les éléments qui reviennent très souvent dans mon travail. C'est des symboles forts de féminité qui sont immédiats. Donc il y a peu de maquillage ou peu de perruques, par exemple, dans mon travestissement. Il y a un côté assez rudimentaire dans le sens où je vais enlever ma paire de Nike et je vais mettre des talons. Et tout de suite, il y a une immédiateté dans le fait que je vais incarner une figure un peu plus féminine. Bon, j'ai un corps un petit peu androgyne, donc qui s'y prête. On crée aussi, je pense, quand on est artiste, des images qui nous plaisent. Et je trouve assez beau, en tout cas en termes de composition. Moi, quand je vois ce genre de paysage, D'y inclure quelque chose comme ça d'érotique, de très féminin. La féminité est quelque chose de primordial et avec lequel il faut pas hésiter à jouer quand on est artiste. Quand on est street artiste, souvent on dessine, on le met sur papier visuellement, comme ça on en parle. On l'évoque, mais on se met pas en scène nous-mêmes parce que voilà, c'est peut-être assez pudique, il y a peut-être un côté un peu macho, il y a peut-être un. Et bon, il y a des femmes artistes qui font des choses superbes, mais voilà, j'avais envie de me placer un petit peu comme un garçon qui apporte une touche de féminité avec parfois des choses très sexy dans mes photos, mais pas complètement queer dans le sens où voilà, je suis pas non plus drague sur ce toit. Moi, je cherche à construire une image qui soit peut-être un petit peu androgyne, où on puisse vraiment se poser la question, tiens, est-ce que c'est une fille ou est-ce que c'est un garçon ?
Alors quand on dit que Nina est passée par là, et comment est-ce qu'on sait qu'elle est passée par là ? Parce qu'il y a un graphe qui reste, il y a après un dessin, qu'est-ce qu'on peut voir ?
Donc il y a un graphe qui reste effectivement, et voilà, il n'est pas toujours visible. Donc effectivement à Paris, si à Charonne par exemple, tu descends, il y a un toit avec un petit flop Nina. Donc les flops, c'est les lettres rondes dans le graphe. Moi, je travaille beaucoup à partir de courbes. Donc Nina fait plutôt du tag, du flop, des choses comme ça. Et pas des belles pièces couleurs élaborées, très techniques. Je suis plutôt sur les premiers langages de base du graffiti qui sont pour moi les plus importants, le tag, etc. Là, en l'occurrence, ce flop, c'est une paire de fesses avec un cœur, une paire de fesses, un cœur répété. Ça fait des N, des I, des A. Souvent, elle n'est pas visible, puisqu'elle est sur des endroits assez peu accessibles. Tout ce travail parle un petit peu de mon parcours dans la ville, quoi. Il y a quelque chose de très personnel par rapport aux lieux que j'ai pu fréquenter, ou seulement des lieux où je trouve qu'il y a une énergie intéressante pour intervenir. Et donc du coup, voilà, je crée un petit peu aussi une cartographie de mes différentes pérégrinations dans Paris et sa banlieue.
On ne peut pas dire qu'ils soient nombreux les graffeurs en talons aiguilles et bas de nylon. Le milieu de l'art urbain est a priori peu porté sur le travestissement, mais qu'à cela ne tienne, Nina Elpolin est là, personnage subversif et revendicatif qui aime grimper sur les toits et y laisser la trace éphémère de son passage. Cette créature clandestine aime s'inviter là où on ne l'attend pas, que ce soit au Palais de Tokyo et son projet Mausolée, ou dans l'exposition éphémère Tour Paris 13, deux vitrines officielles, selon ses mots, d'un street art poli et institutionnalisé qui a perdu de sa sauvagerie et de sa spontanéité. Alors ses outils de prédilection, la bombe de peinture bien sûr, mais aussi la photo et la vidéo, afin d'inscrire à plus long terme sa silhouette androgyne et transgressive dans le paysage urbain. Son travail interroge l'inscription, les multiples pratiques liées au graffiti dans le cadre plus large d'une histoire de l'art en écriture. On a pu ainsi voir une de ses photos la semaine dernière au Lab 14, cette ancienne poste parisienne à Montparnasse, investie par l'art urbain et qui a disparu dimanche dernier. Mais pour en savoir plus sur Nina Elpolin, filez sur les réseaux sociaux. Tous les liens sont à retrouver sur la page de Mauvais Genre.
De Mauvais Genre, comme tous les samedis, votre chronique, votre rubrique, votre département, Céline. Pascal Horry, réaction à l'art de Nina Elpolin ?
Je découvre, c'est effectivement le sommet du Mauvais Genre, donc c'est excellent. J'ai bien aimé la formule dans l'entretien de Céline avec Nina Elpolin, la féminité avec lequel, etc. Et ça résume quand même assez bien cet art.
Le personnage aussi androgyne que représente Nina Elpolin, en effet.
Très bien, bah écoutez, merci Céline. Un temps, on va rejoindre un autre graffeur, un des plus célèbres street artistes de la contre-réforme, le chevalier Bernin. Face à l'ange agissant, la femme n'est qu'abandon et son corps n'est que démembrement. Un long pied gauche qui pend, nu, tout en bas, près de la terre mais déjà envolée, une longue main gauche jetée à mi-chemin, une main droite retournée, paume vers l'ange, un visage. Visage et non tête, puisque les cheveux en disparaissent sous le voile, tout comme la nuque et les oreilles, tout comme la gorge et le cou, cachés sous l'étoffe lacée. Sans regard, ce visage n'est qu'une bouche offerte, dévoré des yeux par l'ange, au sourire ineffable, et voilà que lui est à moitié dévêtu. De cette semi-nudité qui existe plus le désir que la totale. Il montre tout ce que la femme cache. Sous sa chevelure bouclée, cascadante, se déploie le cou, la gorge, le bras, le sein, un sein pointant, féminin. De sa main droite, celle qui est de votre côté, bras déployé dans le mouvement gracieux d'un jet, ou d'un peintre armé de son pinceau, ou d'un sculpteur armé de son ciseau, il lève en direction de l'abandonné, du bout des doigts, une flèche d'or à large pointe. Par des cordes frémissantes choisies par Laurent Polleret pour notre playlist thérésienne de ce soir. Une lecture d'un extrait parmi les tout premiers de votre livre Pascal Horry, Jouir comme une sainte et autre volupté, je dis bien, donc consacré à cette approche littéraire et descriptive, poétique, linguistique de ce tableau, de cette sculpture, parmi les plus célèbres au monde d'ailleurs, on peut dire que c'est véritablement, je dirais, devenu un classique de... mais de quoi ? On ne sait pas très bien. Cette représentation de l'extase de Sainte Thérèse d'Avila par le Bernin, dit aussi la transverbération de Sainte Thérèse, qui est à Rome dans l'église de la Vittoria, c'est quelque chose qui, autant que certaines cartes postales bizarres qui se vendent par centaines au Louvre, alors que l'œuvre n'est pas plus extraordinaire que cela, magnétise et attire tout le monde, Pascal Horry.
Tout le monde, ça va de Stendhal à Jacques Lacan. Stendhal qui détestait le baroque, mais là qui rend les armes, hein, si j'ose dire. Je pense qu'elle n'est pas prête d'arrêter de faire rêver, de faire écrire. C'est une étape de plus dans ce culte que certains d'entre nous portent à cette œuvre, qui est quand même étonnante.
Vous allez nous expliquer pourquoi vous l'avez choisi ou pourquoi elle vous a choisi, ce qui est sûrement plus le cas. Mais en tout cas, c'est rare de lire sous la plume d'un historien des textes pareils, puisque les historiens qui sont en même temps poètes, qui ont une approche esthétique et une écriture poétique sont assez rares. Ça a été le cas dans le passé. C'est vrai qu'on peut lire encore Georges Duby, il y a encore des plumes comme ça, historiennes, qui savent manier l'émotion littéraire et poétique. Est-ce que dans vos précédents livres, vous avez fait une thèse sur la politique culturelle du Front Populaire, vous êtes commentateur de bande dessinée, historien de la gastronomie, est-ce que l'écriture poétique, comment elle vous est venue, puisque ça a longtemps été un péché chez les historiens, on se souvient du célèbre article de Emmanuel Leroy-Ladurie, les damnés de la thèse, où un membre de jury rappelait à un thésard qu'il avait commis le crime de faire une comparaison. Et là, au contraire, vous ouvrez toutes grandes les portes de la poésie et du lyrisme.
J'ai utilisé plusieurs ruses. J'ai publié un livre sous pseudonyme, mais même sous la torture, je ne vous dirai pas quel pseudonyme. Et puis, et ça permet d'expliquer aussi ce livre. À deux reprises, j'avais rencontré aussi sur mon chemin des éditeurs qui étaient des éditrices, comme par hasard, qui m'ont permis de terminer des textes littéraires dont j'étais un peu enceint, mais qui n'auraient jamais accouché s'il n'y avait pas eu ce travail des éditeurs. Parce que ce que j'explique toujours à mes étudiants, c'est qu'on n'écrit jamais un livre, enfin, sauf rare exception, on écrit un texte. Pour que ça devienne un livre, il faut qu'il y ait une rencontre, par exemple, avec un éditeur, qui est ensuite un imprimeur, un correcteur, des libraires, des bibliothécaires,
une chaîne,
éventuellement de lecteurs, ça c'est secondaire. Et là, par exemple, je dis pas que c'est un travail de commande, mais c'est une éditrice qu'on connaît à France Culture,
qui s'appelle Colette Fallouz,
qui dirige cette collection Traits et Portraits, dont la ligne, je parle de la collection, est l'autobiographie. Alors, j'étais très flatté, parce que j'allais succéder à Le Clésio, à Leschinski, etc. Donc j'ai signé le contrat, et après je me suis dit, mais mince, il faut que je dise « je ». Donc comment est-ce qu'on peut...
Ça, pour un historien, c'est un autre...
Pas que pour un historien, sans doute, mais en tout cas pour un historien. L'ego-histoire, malgré tout ce qu'on a dit. Et donc, la ruse qui m'est venue spontanément, c'est de parler d'une œuvre qui me fascine depuis mon entrée en puberté. Voilà. Et donc, je pouvais après me permettre de parler de, entre guillemets, moi, enfin, on va supposer que c'est moi, de mes parents, mais parce que je parlais de Thérèse, qui me hante quand même depuis ce moment où, vers l'âge de 15 ans, je l'ai découverte dans cette petite église baroque, par ailleurs assez secondaire, qui s'appelle Sainte-Marie.
Alors, justement, on va remonter aux sources de cette rencontre et cette scène primitive, donc, qui a fait qu'un jour, Pascal Horry rencontra Thérèse d'Avila.
France Culture, Mauvais Genre, François Angélier.
Carlos Nino and Friends, un choix de Laurent Polleret pour le Mauvais Genre de ce soir. Meta Maravilla, la Meta Merveille. Vous imaginez, ça fait un concept qui fait rêver, ça, Pascal Horry, la Meta Merveille.
Oui. Qui correspond assez bien, ce type d'œuvre.
C'est pour ça que
bien choisi.
Je le cite. Alors, justement, racontez-nous un petit peu cette scène primitive, cette rencontre entre vous et la sculpture du Bernin qui représente l'extase de Thérèse d'Avila, puisqu'elle vous permet de parler de vous. Donc, c'est un petit peu la vie et les émois de Pascal Horry à la lumière du marbre du Bernin.
Bah, on passe son temps à se découvrir et à s'étonner. Enfin, du moins, j'espère qu'on continue tous à s'étonner sur nous-mêmes jusqu'à notre mort et peut-être un peu au-delà. Et quand j'ai découvert Rome dans un petit voyage très ordinaire apparemment, avec mes parents quand même, il faudrait peut-être que je le précise, je ne l'ai pas précisé dans le livre. Bon, je pensais rencontrer, vous savez, c'est dans les années 60, j'ai une quinzaine d'années, donc je pense au Forum romain. Et puis ce que je découvre, évidemment, c'est le baroque. Et avec une guide dont j'ai conservé le nom, alors que je ne l'ai pas revu depuis, le nom et le prénom, qui prononçait pour la première fois devant moi les noms de Bernin, Borromini, et bon. Et je suis resté absolument là. Je suis toujours dans cette église, d'une certaine façon, dans ces églises, Saint-Charles des Quatre Fontaines, etc. Et du coup, quand j'ai été amené à me dire, mais bon, on me demande de parler de moi, je suis né, hein, voilà, il y a des émotions,
votre vraie naissance,
il y a des
c'est
voluptés.
Ce
c'est une de mes naissances, mais c'est peut-être aussi une façon pour moi, parce que j'avais commencé à prendre des notes, ce que je dis pas non plus dans le livre, oui, l'intérêt de l'émission, prendre des notes comme ça, sous le choc, sans savoir que ça allait être générateur d'un livre beaucoup, beaucoup, beaucoup plus tard, mais c'est mon rapport à l'écriture qui s'accélérait aussi à ce moment-là, parce que comme je l'explique dans le livre, je suis quand même le fils de quelqu'un qui a passé son temps à écrire, sous mes yeux, mais ça aurait pu me mettre à distance, au contraire.
Et qu'est-ce qui vous a saisi donc dans ce spectacle? C'est la distance qu'il y a entre la pointe de la flèche et le cœur de la sainte, c'est le sourire de l'ange, c'est la pamoison de l'extatique carmélite, c'est le pied gauche comme Stendhal, c'est quoi?
Vous l'avez dit. Et encore bien d'autres choses. La lumière qui descend, qui n'est pas la lumière électrique qu'on nous inflige aujourd'hui, c'est-à-dire que pour les bonnes œuvres de l'Église catholique, on met une pièce dans un tronc, ça s'illumine avec l'électricité, alors que le Bernin avait bien entendu tout prévu. Et c'est très intéressant d'être à l'extérieur de l'Église et de voir comment pénètre à certaines heures, ça varie avec la saison, l'heure, etc., une lumière qui traverse un diaphragme et qui descend en pluie sur alors quoi, du marbre et de l'or. Du marbre et de l'or, hein, c'est fondamentalement ça. C'est vraiment la gloire dans tous les sens du mot.
Le rayonnement de la gloire.
C'est déjà ça. C'est la pamoison, comme à chaque fois que je vais à Rome, je me précipite.
Vous l'avez vu souvent, cette sculpture?
C'est la règle, on pose, parce qu'il faut être deux, déjà, pour voir une sculpture comme ça. C'est un conseil que je donne aux auditeurs, bon, peut-être plus que deux, je ne sais pas, mais enfin deux. Tout seul, ça a une autre signification. On dépose ses bagages à l'hôtel et on se précipite rue du 20 septembre. On vérifie que l'église est ouverte, parce qu'en Italie, bon. Et là, on voit d'abord des visiteurs, des jeunes visiteurs auxquels on n'explique peut-être pas vraiment tout. Encore récemment, la dernière ou l'avant-dernière fois, il y avait des jeunes filles qui venaient d'une institution religieuse de la banlieue parisienne. Bon, on leur parlait théologiquement de choses diverses et variées, mais peut-être pas de l'essentiel. Bon. Et puis on est agenouillé, parce que bien entendu je conseille aux auditeurs de s'agenouiller, puisque une famille italienne a gentiment payé pour qu'il y ait une sorte de prix-dieu.
Mais la sculpture n'est visible
pour deux. Un prix-dieu pour deux.
Voilà. Pour deux, ce qui est quand même d'une...
Et il y a ça, et puis alors le choc second, c'est que c'est un théâtre, puisqu'il y a de part et d'autre des spectateurs, pourrait-on dire, qui sont les donateurs, qui est la famille Corner de Venise, ou Cornaro. Et j'ai eu une illumination en écrivant le livre. Je me suis dit, mais au fond, le théâtre à l'italienne, l'opéra, sont nés à ce moment-là, précisément. Tout arrive au même moment, entre 1600 et 1630. Et le Bernas, que je ne savais pas, mais j'ai vérifié, a construit des théâtres provisoires. Donc là, on est au théâtre.
Céline Duchesne.
Puis on est sur le titre de cette sculpture, l'extase. Et comme votre livre parle de volupté, d'ailleurs un mot qui est tout à fait intéressant, je trouve, même dans son évolution. On parle aussi bien de plaisir sexuel à travers ce mot volupté que de même ce terme extase qui renvoie et au domaine religieux et au domaine sexuel. Est-ce que c'est aussi tout ça qui est aussi en jeu au moment où vous contemplez cette sculpture si saisissante?
Exactement. D'ailleurs, au moment où je la contemple, j'allais dire que par ailleurs je lis. Et je lis à la bibliothèque municipale d'une ville de province, je lis alternativement, et c'est une jouissance dont j'ai conscience à ce moment-là, c'est-à-dire que c'est déjà au second degré, bon, je suis comme ça, c'est très mal, mais c'est-à-dire que je lis à la fois des travaux d'érudition écrits par des vieux chanoines en soutane, bon, et puis Sade, puisque le directeur de la bibliothèque municipale de cette ville était un ami de Georges Bataille, et que dès qu'il a pu, il a acheté les œuvres complètes qui était publié dans les années 60 de Sade, et j'avais un égal plaisir à lire les deux, de même que je comprenais bien, évidemment, d'où le choc, que cette extase, en grec, ce transport, bon, pouvait être interprété de multiples façons, et que d'ailleurs, d'une certaine façon, je suis pas de ceux qui vont dire, on a compris, c'est pas une extase mystique, mais si, c'est que le mysticisme, ça comprend aussi cette dimension sensuelle.
Mais d'ailleurs, dans le livre, vous évoquez cette histoire que pour Thérèse, elle a pu être sainte, mais bien d'autres n'ont pas eu cette chance. Et alors, vous sous-entendez, et c'est très intéressant, je n'avais pas pensé à ça, que c'est peut-être ses capacités d'érudition et donc à écrire et donc à transposer ses sensations par rapport à d'autres qui n'avaient pas ce moyen écrit et qui ont été réprimés pour ce même type d'extase finalement.
Exactement, je vous remercie Philippe de souligner ça. J'ai dédié très consciemment ce livre à Jean-Claude Carrière, pour lequel j'ai
une question qui allait venir.
Très
la réponse arrive avant la question.
Très grande admiration. Et c'est Jean-Claude qui m'a fait découvrir le destin de cette Benedetta Carlini, qui à l'époque, pas tout à fait de Thérèse, mais à l'époque en revanche du Bernin, a tout faux, elle, parce que elle est prieure en Toscane, elle est visitée elle aussi. Alors c'est vrai qu'elle franchit d'autres lignes de quelque couleur qu'on veut. Elle est visitée y compris par ses religieuses. Et là, l'Inquisition s'en mêle et ça se termine très mal pour elle, ce qui fait qu'aujourd'hui on a un dossier extraordinaire sur les transports, les extases, les visitations. Très 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 sensuelle de cette prieure, parce que c'est la première grande affaire de lesbianisme documentée dans l'histoire. Tous les historiens du lesbianisme connaissent l'affaire Benedetta. Donc Benedetta, voilà, est exclue, et puis on imagine bien d'autres affaires à la même époque. On est à peu près à l'époque de Loudun, etc. Tandis que Thérèse, pour la raison que vous avez dite, effectivement, je pense que d'abord c'est une aristocrate, c'est une femme qui s'exprime et qui s'exprime généralement avec presque l'ordre, en tous les cas, l'encouragement d'hommes qui sont ses confesseurs ou ses visiteurs,
Saint Jean de la Croix.
Et Saint Jean de la Croix joue un très grand rôle. Donc Elle est quand même déjà dans l'institution. C'est une réformatrice d'ordre. Ces ordres religieux passent leur temps à être réformés. Il n'y a pas que Luther qui réforme. Depuis le VIe siècle, on réforme sans arrêt. C'est-à-dire que ça ne marche jamais vraiment bien pour ceux qui sont exigeants, intransigeants, radicaux. Bon. Et finalement, elle ne franchit jamais l'infranchissable. Alors, ce que je trouve quand même génial, si je peux me permettre un jugement de valeur que les historiens ne devraient pas avoir, mais je ne suis pas un historien, je me lâche, là... En ce moment même, et puis je suis de formation catholique, bien que je proclame mon athéisme, mais catholique, c'est que c'est génial de la part d'une église comme l'église catholique de comprendre qu'il vaut mieux canaliser que passer son temps à exclure.
C'est ce que vous dites, que le génie du christianisme, enfin, le génie du catholicisme, ça a été justement de conserver à l'intérieur de l'enceinte certaines natures particulièrement ardentes, voire torrides, et d'utiliser cette ardeur à des choses pieuses et à de saints projets, au lieu de les laisser se perdre dans le monde.
Tout à fait, et d'ailleurs un artiste sensible comme... était évidemment le Bernin, enfin quand je dis évidemment, il suffit de regarder ses œuvres, ne pouvait qu'être sensible lui-même à ça, et se reconnaître là-dedans.
D'autant plus que le Bernin, alors il faut quand même le citer, puisque c'est l'auteur de la sculpture, qui est une sculpture hallucinante. Enfin, je veux dire, c'est des travaux d'une virtuosité démentielle, enfin, équivalent à la sculpture de Michel-Ange, et d'arriver à capter cette pâmoison et cette ardeur d'arder, on peut le dire, de l'ange, avec un travail de burin et de marteau, c'est quelque chose de phénoménal.
Tout à fait. Ce n'est pas par hasard un architecte en même temps qu'un sculpteur. On sent bien qu'il a conçu la chapelle dans son ensemble, ça c'est évident. Et puis par ailleurs, c'est un grand amoureux. J'aime bien quand même cette phrase dans un échange avec Louis XIV en disant sire que peut-être qu'il y a du lait sous la peau des Françaises, mais il y a du sang sous la peau des Italiennes.
Céline Duchesnay.
Oui, j'aimerais bien aussi qu'on revienne sur toutes les interprétations qu'il y a pu avoir sur cette sculpture, parce que c'est ça aussi qui est fascinant. On a beaucoup écrit dessus, Lacan s'est penché dessus, vous avez parlé de Stendhal, il y a Sade aussi. Est-ce que tous ces écrits, tous ces écrits autour de cette extase ont pu aussi vous inspirer ou vous guider?
Ils m'ont autorisé à aller un petit peu plus loin que les commentaires d'histoire de l'art classique ou de théologique. Contrôlé, hein, ça c'est vrai. Et je reste quand même, évidemment et très simplement, dans la ligne du président de Brosse, enfin le futur président de Brosse, qui est à ce moment-là un jeune conseiller au Parlement de Bourgogne, 18e siècle, un grand seigneur qu'on pourrait qualifier de libertin, mais c'est pas Casanova, mais enfin bon, et qui dedans, dans ses fameuses lettres d'Italie, et devant cette sculpture, dit « si c'est ça l'extase mystique, je crois que je la connais ». Il faudrait être Stendhal pour raconter la suite. On avertit le cavalier de l'infidélité de la mal nommée Constance. Il fait atteler son carrosse, feint de quitter la ville, mais en réalité va s'installer discrètement devant la maison de l'amante. Il envoie sortir son propre frère, Luigi, reconduit jusqu'au seuil par une Constance énamourée, qu'on peut rêver habillée à cet instant comme son amant l'a éternisée dans le buste du Bargello. Mais vous savez que s'il y a du lait sous la peau des Françaises, il y a du sang sous celle des Italiennes. C'est le cavalier qui nous le dit, en réponse à rien moins que Louis XIV. L'amant bafoué se précipite sur son frère, qu'il frappe à coups de barre de fer. Et s'il ne le tue pas, c'est que des passants s'interposent. De retour chez lui, il tente de le tuer une seconde fois, cette fois comme un cavalier, à coups d'épée. Luigi court chercher refuge à la basilique Saint-Pierre, celle-là même dont le Bernin est l'architecte officiel, où il a érigé quelques années plus tôt son fameux baldaquin et qu'il magnifiera 20 ans plus tard d'une non moins fameuse colonnade. Mais baldaquin ou pas, Saint-Père ou pas, le Bernin ce matin-là veut venger son honneur. Seule la sacralité du lieu l'arrête. Bien forcé, il y a contribué. Il tourne alors sa fureur vers Constance, qu'il importe maintenant de punir comme on punit les femmes. Il rentre chez lui, convoque un domestique, lui fait remettre 2 fiasques de vin grec et un rasoir. Les fiasques sont un cadeau pour la belle, le rasoir est pour elle aussi, il doit la défigurer à jamais. Le domestique obéit. L'affaire se termine comme il se doit. Constance est jetée en prison. Luigi et le domestique sont condamnés à l'exil, le cavalier à une simple amende dont le pape le dispensera. Le pontife, tout amour, ordonnera à son protégé d'épouser sans plus tarder et lui choisira une fort jolie femme prénommée Catherine, à qui il fera 11 enfants. Ainsi soit-il.
Pascal Horry, lisant Pascal Horry, de quoi s'agit-il ? On peut revenir rapidement sur les circonstances de cette, ce que j'ose pas appeler un fait divers, en tout cas, un élan de passion.
Quand on le résume, ce fait divers, on se croit dans une nouvelle italienne de Stendhal. C'est ce qui est arrivé au Bernin, ou plutôt c'est ce qu'il a décidé qu'il fallait qu'il arrivât, c'est-à-dire que il avait une maîtresse, mais il n'a pas aimé être trompé par cette maîtresse, avec son propre frère, Luigi. Et évidemment, son sang n'a fait qu'un tour, et il a été à deux doigts de tuer son frère, et à deux doigts de défigurer complètement la belle, qui a été jetée en prison, alors que le pape, évidemment, a, au fond, amnistié tout de suite son grand artiste. Alors, les artistes ont tous les droits, c'est l'artistocratie.
Surtout dans la Rome des papes, où l'artiste était quand même central dans la politique générale, monumentale, évidemment, avant tout. Alors, quatre jouissances, puisque quatre voluptés, jouir comme une sainte, Pascal Horry, titre de votre livre qui paraît au Mercure de France et pour lequel vous êtes notre invité, jouir comme une sainte et autres voluptés. Donc vous isolez quatre voluptés qui sont les vôtres, et vous le dites vous-même dans le livre, ce qui me réunit, Céline du Chesnay, ce sont
mes voluptés.
Alors quelles sont-elles, ces voluptés, Pascal Horry ?
Les quatre voluptés structurantes de cette architecture qui est un livre aussi, il n'y a pas que le Bernin, tous les écrivains sont, me semble-t-il, architectes nécessairement. C'est d'abord la volupté de l'art, effectivement, ce qui me permet de parler à partir du Bernin, de mon propre rapport à l'art, de l'importance de la découverte du cinéma qui, pour moi, a été lié à l'amour des femmes. Je ne suis pas le seul à le dire, hein, bien entendu, chez les cinéphiles. C'est pour ça qu'il y a, dans ce joli livre, avec de belles images en noir et blanc, il y a Marlène Dietrich dans L'Impératrice Rouge, parce que j'ai un souvenir très précis de la minute où j'ai aimé le cinéma, parce que j'ai aimé Marlène dans une salle de cinéma de province, le ciné-club qui s'appelait La Chambre Noire, qui était animé d'ailleurs par un prêtre, un peu dissident, où j'ai découvert L'Impératrice Rouge. C'était un mercredi après-midi, je me rappelle très bien la salle, et il y avait très peu de monde, mais j'étais là. Donc, la volupté de l'art, la volupté du savoir, dont on parle tellement peu, qui est la volupté à la fois des bons élèves et des autodidactes, d'une certaine façon. La jouissance de découvrir, à cette époque-là, en lisant, en relisant, je ne sais combien de fois, les mêmes pages des dictionnaires Larousse ou autres, le Saint-Jacques d'Alexandrette, l'État libre des Alaouites et le Djebel Druze. La poésie des noms. La question des sources de l'Amazone, enfin bref. Et puis, la volupté de la religion, catholique, apostolique et romaine, dont je viens, dont je suis sorti, dont d'une certaine façon je ne suis jamais sorti. Et puis la quatrième volupté, la volupté du sexe, quand même. Il y en a évidemment d'autres, mais...
Dans toutes ces voluptés, d'ailleurs, étant, je dirais, en connexion permanente.
Bien sûr.
C'est-à-dire que la volupté du savoir débouchant sur celle du sexe, la volupté, je dirais, toutes les voluptés.
Oui, mais lire Sade, ça ne m'a pas forcément rendu sadique, mais ni même sadien, mais évidemment, rien de tel. Pour avancer sur d'autres...
Céline Duchesnay.
Il y a aussi la volupté d'écrire, que vous comparez, vous dites qu'il y a de l'excitation, de la bandaison, de la décharge, que c'est une affaire de jet, ces mots qui jaillissent.
Exactement. Et puis j'avais sous les yeux un père qui aimait la vie, qui était ouvert à tout et qui passait son temps à écrire. Nulla dies sine linea, et linea au sens pas un jour sans une ligne. Parfois il dictait d'ailleurs ses textes, comme beaucoup de journalistes à l'époque qui dictaient à une sténodactylo à l'autre bout du fil. Et ça, c'était tellement jouissif.
Oui, parce que cet ouvrage est aussi une tentative de dialogue avec votre vie, avec votre famille, avec votre père, un grand amoureux, un grand savant, un grand journaliste, avec votre sœur, on vous voit dans ses bras, une fort jolie personne d'ailleurs, on vous voit également en communion, alors en costume de communion préconciliaire, c'est-à-dire en petit costume.
J'y tiens, voilà. C'était avec un col dit Eton, disait ma mère, et l'année suivante, Vatican II était passé par là, nous étions tous en aube.
Et la décadence commençait.
Ah, ça c'est votre commentaire.
On voit aussi en petit cow-boy également. Donc oui. Il y a trois dimensions dans ce livre. Il faut une réflexion sur ce qu'est, je dirais, une œuvre d'art, la Thérèse du Bernin, la réflexion sur ce qu'est la jouissance et le savoir, et une réflexion sur vous-même, dont la vie est un peu faite de tout cela.
Oui. Nous sommes démembrés, puis on se réunit. Je pense que chez moi, en tous les cas, je n'engage pas les autres personnes ici présentes autour de cette table ce soir, mais mes voluptés me réunissent.
Oui, et j'allais dire, vous réunissent en vous construisant aussi contre. C'est-à-dire que quand vous dites que votre père est journaliste, il faut un autre métier. Vous restez dans la plume, mais c'est un autre métier. Et vous avez une éducation catholique, et vous vous en sortez pour y rester finalement. Et l'art va en quelque sorte se substituer à la religion dans votre goût de la jouissance. Et donc on voit bien comment, c'est beau cette autobiographie, de voir comment par un art du contournement vous vous trouvez, exactement au centre.
Oui, tout à fait. Merci de m'avoir bien lu, enfin lu dans le sens où j'ai pensé écrire. En ce qui concerne mon père, par exemple, mais j'ai un souvenir très ancien du fait que j'admirais ce que je lisais, parfois que je ne comprenais pas toujours, quand j'avais 10-12 ans, parce que c'était une écriture assez baroque et tolérée dans ce journal, parce qu'il était grand reporter, et on avait créé la fonction de grand reporter dans ce journal pour lui. Et puis, en même temps, 48 heures après, tout ça servait à emballer les carottes, hein, puisqu'il travaillait dans un journal. Et ça, je m'en suis pas remis non plus. Donc, être historien, je dis pas que les textes des historiens ne savent pas emballer bien des choses aujourd'hui, hein, y compris les carottes. Mais on peut penser que ça tient un tout petit peu plus longtemps. C'est une sorte de lutte contre la mort, là.
Tout est plaisir à qui aime le plaisir. Ce n'est pas plus compliqué que ça. C'est peut-être aussi ça, la mystique, réintroduire le cycle dans un univers orienté. Donc, c'est aussi une réflexion sur la portée de la mystique au sein, non seulement de la religion catholique, mais au moins du monde en général. C'est-à-dire, en quoi la mystique peut être une ouverture, une source, et non pas une sorte de fantasme malsain.
Je me suis découvert faisant des grandes théories en deux phrases, et après je m'en vais encore ailleurs. Et là, par exemple, ce qui me devenait évident, c'est que le christianisme, qui est une révolution, parmi les grandes révolutions se situent évidemment les fondations religieuses. Bon. Et la fondation de la religion chrétienne, c'est révolutionnaire, et nous en sommes tous encore là. Quand je dis tous, y compris d'ailleurs ceux qui ne sont pas... même ça va au-delà de l'Occident, hein, ça a contaminé... d'ailleurs l'islam est quand même un enfant du christianisme, ça c'est tout à fait évident, plus encore que du judaïsme, je pense. Et donc, ce sens orienté, ça nous vient du christianisme, puisque la pensée grecque, pour simplifier, est cyclique. Et en même temps, bien entendu, la tentation de retrouver le cycle est très grande chez nous, et d'ailleurs c'est le cycle de la procréation, c'est le cycle de la génération, et je pense que la mystique c'est sans doute ça, c'est maintenir les droits du cycle à l'intérieur de quelque chose qui est orienté vers la parousie.
Jouir comme une sainte et autres voluptés de Pascal Horry, c'est au Mercure de France. Voilà, une composition de Bernard Parmigiani, qui fut le musicien, pas attitré, mais un des principaux musiciens, avec quelqu'un qui s'appelait, un nom magnifique, Avenir de Monfred. pas à Pascal Horry. Avenir de mon Fred. Voilà, Parmigiani qui fut un des principaux musiciens, donc des films de Valerian Borovchik, qui est notre second sujet ce soir à Mauvais Genre sur France Culture. Borovchik qui se voit décerner, on peut le dire, une rétrospective au Centre Pompidou et honoré par un somptueux coffret chez Carlotta. Décidément, là, qu'est-ce qui se passe? Les Mauvais Genre sont à ce point honorés, monsieur?
Ben oui, ben c'est une fête et Borovchik, c'est très très bien de le retrouver parce que on peut dire qu'il est dans une sorte de purgatoire de la cinéphilie. C'est-à-dire que les jeunes gens aujourd'hui connaissent pas Borovchik. C'est les plus anciens, ceux qui ont vécu sa grande gloire dans les années, j'allais dire, 60, 70 en France. Et ces cinéphiles-là sont restés évidemment attachés à son cinéma. Mais après, comme ses derniers films étaient moins intéressants ou étaient considérés en tant que tels, petit à petit, son étoile a pâli. Les dernières années de sa vie, il est mort en 2006, mais les dernières années de sa vie, il tournait plus. Il était plutôt tourné vers des travaux d'animation, enfin d'objets, de fabrication, de graphisme. Petit à petit, son étoile a pâli. Alors, Arte, on en avait parlé, voilà, ici même à Mauvais Genre, avait réédité Les Contimoro, voilà.
La Bête,
et puis Blanche, je crois, ou Goto. Bon, mais là, avec Carlotta, avec Beaubourg, il y a tout. Et Carlotta, pour ceux qui ne sont pas à Paris, c'est formidable parce qu'il n'y a pas tout, mais je dirais qu'il y a l'essentiel.
Il y a énormément.
Et c'est une véritable édition commentée. C'est-à-dire que on aimerait que tous les éditeurs vidéo en France et ailleurs fassent ça. C'est-à-dire que non seulement les œuvres sont des copies restaurées avec de temps en temps le Blu-ray quand c'est possible, mais il y a des bonus avec des entretiens de gens qui ont travaillé avec Borro, des analyses vidéo de ces films qui sont très parties. Très pertinente. Et puis, il y a carrément deux livres dans le coffret.
Alors, le Dico de Borro et Camera Oscura, qui est une anthologie de textes, donc.
Voilà, de textes qui sont pas que des textes de Borovchik, qui sont des textes critiques sortis à l'époque, un recueil d'entretiens. Donc, il y a une façon de cerner vraiment tout cet univers Borovchik. On ne peut proposer aux auditeurs de se précipiter sur ce coffret, parce qu'avec un seul coffret, on a vraiment l'impression de découvrir un continent entier, et ça va loin, parce qu'y a l'essentiel de ces courts-métrages, ils y sont pas tous, hein, parce que je crois qu'il y en a une trentaine.
Il y a notamment un volet, il y a cinq ou six petites digipacks, comme on dit, et il y en a un avec deux disques, deux DVD sur ces films d'animation.
Voilà, sur ces films d'animation.
C'est important de commencer par cela, d'ailleurs.
Bah voilà, parce que c'est comme ça, parce que il faut rappeler les choses, peut-être. Borovchik, il est en 23 en Pologne, c'est un Polonais, et il commence par étudier les beaux-arts à Cracovie, donc c'est vraiment quelqu'un qui vient du graphisme, et ce qu'il fait en sortant de l'école, c'est des affiches de cinéma. Et c'est comme ça qu'il va rencontrer Jan Lenica, avec qui il va commencer à faire, lui aussi, des films d'animation. Et notamment un film qui s'appelle en français La Maison, qu'on cite souvent dans le coffret sous le nom de Dom, et qui est déjà ça, où il y a déjà le côté montage, animation d'objets. Parce que ce qu'il faut comprendre avec Borovchik, c'est que il aime beaucoup les objets, il aime beaucoup l'animation, mais les objets, il les fabrique lui-même. C'est-à-dire que on est vraiment dans un cinéma homemade. Et je peux vous dire que les objets qu'ils font sont
qu'est-ce qu'ils fabriquent comme objet
de collection. Bah de tout. C'est des boîtes un peu étonnantes. Il va construire des objets érotiques, mais aussi des choses beaucoup plus basiques. Il va construire des chaises. Hein. Et sur tous ces longs métrages, y compris quand il tournera en France, il est crédité au générique comme décorateur et accessoiriste de ces films. C'est-à-dire que, et ça, tous les témoignages le disent, même dans un film comme Histoire d'un péché ou Dr. Jekyll et Hyde, Dr. Jekyll et les femmes, qui sont très, j'allais dire, presque maniéristes dans la représentation, chaque objet sur une cheminée, c'est lui qui les a conçus, chinés, rien ne peut être laissé au hasard. Et du coup, il y a une maîtrise formelle de l'image qui est totalement ébouriffante. Et on comprend, du coup, avec le graphisme et ce côté où on vient de l'animation, Et les collages, les photomontages. Et donc, c'est grâce à ces films d'animation qui ont tout de suite une renommée qu'il est invité à venir en France. Et en France, il n'a pas sa carte professionnelle, on est en 58. Les règles sont encore très strictes. Vous ne pouvez pas faire un film si vous n'avez pas votre carte professionnelle. C'est pour ça que son premier film, les Français, Les Astronautes, il est co-signé par Chris Marker. Et Chris Marker, très élégamment, dit « Moi, j'ai rien à faire là-dedans. Là, mon seul apport au film, c'est qu'à un moment, il voulait un canari en cage et moi, je lui ai suggéré une chouette. » Voilà, ça valait pas d'être co-réalisateur, mais bon, c'était une condition. Mais, et à partir de là, il va être engagé par une société et il va devenir réalisateur de courts-métrages, d'animation à part entière. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir son évolution. C'est que il fait de l'animation, mais évidemment, il a une ambition plus totalitaire d'embraser le monde. Et dès 66, il fait un premier long-métrage en prise de vue réelle. C'est Rosalie, l'adaptation de Maupassant.
Oui, d'ailleurs, qui est une sorte de gros plan d'une servante qui a été engrossée par un membre de la famille pour laquelle elle travaille et qui témoigne à la barre. Donc, c'est filmé en légère plongée, avec un visage qui pleure, une femme émue, tremblante, impressionnée par les circonstances et qui raconte son malheur. Et après, il y a une espèce de travelling qui est à la fois avant et arrière, où on découvre tous les objets afférents à l'affaire. Donc, elle a tué son enfant. Donc, visiblement, il y a le corps ensanglanté, emmailloté de l'enfant.
Parce qu'elle l'a enterré.
Voilà, il y a la pelle qui a servi à enterrer la fosse de l'enfant. Et c'est très étonnant.
L'oreiller ensanglanté.
Alors, c'est un film important puisqu'il fait le joint entre toute la période des films d'animation où il ne se servait que de matériaux, que d'objets, et les films en prise de vue réelle où il avait affaire à des corps humains. Et donc là, ce film est l'intersection entre une véritable passion matérielle pour les objets et une exaltation réelle pour l'érotisme et les corps humains. Et après, on voit ça explose dans ce premier film de à longue portée, si j'ose dire, qui est Histoire d'un péché.
En 1975.
Hein. Voilà, qui est beaucoup plus tardif. Et là où on a l'histoire, alors c'est un film qu'on n'a quasiment jamais vu, Philippe Rouillet.
Qu'on a vu en salle à l'époque, voilà. Mais qui n'existait pas en vidéo, en DVD, du moins en France. Et donc ça va être une découverte, je crois, pour énormément de cinéphiles. On va voir une totale perfection de la mise en scène, une totale maîtrise. Et c'est très intéressant ce que vous disiez sur les personnages, les acteurs. Au début de sa carrière, au début de ses longs-métrages, quand il fait Goto Île d'amour, avec Pierre Brasseur notamment, les acteurs se plaignent en disant « il nous dirige comme si on était des objets ».
Ben voilà, ça c'est... Non mais ce qui est intéressant effectivement dans ces films, c'est qu'il y a les grands thèmes fondamentaux de Borowczyk, c'est-à-dire d'abord le spectacle du corps poussé, alors on parlait de jouir comme une sainte, de la jouissance féminine, de la violence sur les corps, et puis surtout d'une certaine manière de violence faite au corps par l'espace lui-même, c'est-à-dire c'est l'homme des espaces cloisonnés, c'est l'homme des petites pièces, c'est l'homme des portes, c'est l'homme des armoires, c'est l'homme des coffrets, des boîtes, et en permanence on voit à quel point le désir doit s'articuler avec la logique des objets. Et c'est l'homme des mécanismes aussi, c'est l'homme des processus. Comment on part, je dirais, d'un état anodin, un état de jouissance et d'extase. Comment on part de la vie vers la mort. Et dans Histoire d'un péché, il y a ça. Comment se décrit un destin social. Depuis une petite jeune fille qui est une fille de famille bourgeoise jusqu'à une prostituée. Description d'un processus d'entropie, d'un processus de construction, de destruction. C'est surtout ça, Borowczyk. C'est-à-dire comment analyser des processus et des mécanismes.
Avec en même temps, évidemment, une approche sociale et une dénonciation toujours de la bourgeoisie. Cette histoire de cette femme qui, fille de bourgeois, finit prostituée, commence dans un confessionnal, François. Ça ne nous a pas échappé.
Qui est une boîte.
Qui est une boîte, dans un pré-générique absolument hallucinant.
Céline.
Alors moi, je n'ai pas vu les premières œuvres de Borowczyk, mais par contre, j'ai regardé les œuvres qui correspondent aux années 70, qui correspondent plus à quelque chose, à des films à portée érotique. Et je me demandais, Philippe, si dans ces premiers films,
par exemple,
Les Contes immoraux, Blanche, La Bête, mais est-ce que lorsqu'il était sur ces films d'animation, est-ce qu'il y avait cette même caméra caressante, je dirais, qu'il y avait une manière de filmer les objets de la même manière qu'il a pu filmer les corps, qui est une manière très sensuel.
Ah bah absolument. C'est d'ailleurs ça qui a été sa marque. Et dans Histoire d'un péché, il filme un espèce de phonographe exactement le même qu'il avait filmé dans un de ses courts-métrages et avec, j'allais dire, la même volupté. Il y a une volupté, parce que la volupté est partout dans le cinéma de Borowczyk. Et on imagine qu'il a une volupté à construire les objets. Évidemment, après, sa caméra est très caressante. Et c'est évident que dans les années 70, il rencontre cette mode qui est celui de l'érotisme, c'est-à-dire que dans le cinéma commercial français, il y a un avant et après Emmanuel en 1974 et lui qui a une tendance à l'érotisme parce que Blanche, où déjà on voit avec Michel Simon, où déjà qu'il y a une espèce de Fabliau courtois, où déjà il va assez loin dans l'érotisme, c'est 72, donc c'est Anatole Dauman qui en 74 lui dit, mais écoute, après Emmanuel faisons quelque chose, faisons Les Contes immoraux, et c'est Les Contes immoraux qui sortent en 75.
General.
Who is this?
Oh. Huh? Mr. Enfield, the publisher. Untie your father, miss.
Hey. I'm afraid.
Afraid of your father?
You're going to punish me.
Oh, la bande-annonce de Dr. Jekyll et les femmes, Céline Duchesne.
Je voulais savoir, Philippe, où étaient projetés ces films? J'ai en tête l'émission qu'on a faite avec Brigitte Lahaye, avec ce réseau particulier des salles de cinéma X. Où
et là, pas du tout. À Borovjik, non, au contraire. Il est dans des salles à Ressée. On voit plutôt les salles du Quartier Latin, etc. Il faut bien voir que toute la première partie de sa carrière, c'est vraiment, j'allais dire, un télo. Et Conti Moreau va évidemment élargir le spectre. Mais tous les films érotiques qu'il va faire après ne sont jamais des films porno. Hein, la différence, elle est là, d'un point de vue, c'est pas un point de vue d'esthète, c'est un point de vue très CNC. C'est-à-dire, aucun des films de Borovjik n'ont été classés X. Ils étaient interdits aux moins de 18 ans, mais pas X, parce que on considérait que soit les pénétrations étaient simulées, soit il y avait autre chose. Et d'ailleurs, il a toujours fait des adaptations. Je veux dire, quand il fait La Marche en 1976 avec José Alessandro et Sylvia Christel, l'actrice d'Emmanuel, c'est d'après Mandiargue. Intérieur d'un couvent qui bouscule un peu les choses à la fin des années 70, parce que vous vous doutez bien ce qui se passe dans l'intérieur d'un couvent. Voilà.
Oui, et surtout, ce qui se passe dans l'intérieur d'un couvent.
Une dizaine d'années après le scandale de La Religieuse. Voilà. Alors là, tout a basculé. Hein.
Et bon, ben voilà, intérieur d'un couvent, c'est d'après Stendhal. Vous voyez, il y a quand même ce côté. Alors, à l'époque, certains journalistes qui ne savent pas trop ce qu'ils écrivent disent c'est du porno chic. C'est pas du tout du porno chic. C'est un héros. Au contraire. Et quand on revoit ces films, par exemple, dans le coffret, on peut voir à la fois Conti Moreau, La Bête, et Dr. Jekyll et les femmes. On voit bien que ça n'a rien à voir avec le porno, qu'il y a une fétichisation, par exemple, des objets, mais pas en matière de pénétration. C'est ça qui est très intéressant. C'est pas des objets pour...
Les objets pénètrent beaucoup.
Voilà,
dans
les objets pénètrent beaucoup, mais pas seulement. Par exemple, il y a cette séquence incroyable où une jeune femme s'offre à Mr. Hyde dans Jekyll et les femmes, et elle débarrasse une table où il y a une machine à coudre, et elle s'arc-boute, et son corps devient le prolongement de la machine à coudre. Mais en aucun moment, la machine à coudre ne la pénètre. Mais voyez comme l'image est riche, car évidemment, on imagine la machine à coudre en mouvement,
hein,
qui martèle,
quand même...
qui pilonne. Et constamment, c'est ça le cinéma de Borovjik, c'est-à-dire qu'il y a une évocation, il y a ce qui montre et il y a ce qui vous suggère. Et finalement, on croit que c'est très très érotique, mais c'est le spectateur qui a amené son érotisme et qui a investi de son érotisme les films.
On est quand même beaucoup dans les fantasmes aussi du cinéaste, bien sûr. C'est pas que le spectateur.
Heureusement. Pascal Horry. Alors Borovjik, vous êtes un...
C'était tout à fait ma génération, en ce sens qu'effectivement j'ai le souvenir, grâce à cette émission, d'avoir découvert le nom de Borovjik associé au cinéma d'animation, à la grande tradition du cinéma d'animation des pays de l'Est. Pologne, Tchécoslovaquie, Hongrie, etc. Et puis après, effectivement, il c'est un peu comme Pilote, hein, de manière Pilote. Il a grandi avec nous. L'autorisation à aller plus loin dans son sens, hein, évidemment, on l'a accompagné parce que effectivement, moi je suis tout à fait d'accord avec Philippe, c'est pas du porno chic, c'est un certain type d'érotisme qui considérait que tout pouvait être fortement suggéré, mais suggéré. Et ça correspondait à l'esprit des années 70.
Et c'est vraiment c'est très intéressant de faire l'expérience. Il aimait pas trop la chronologie, Borovjik. Il aimait bien que les choses reprennent une liberté. Mais moi j'aime bien la chronologie par contre. Si on suit tous ces films un par un, on voit à quel point il arrive à marier et à articuler de manière extrêmement dynamique et intense sa fascination pour les objets, donc pour des mécaniques, pour des artefacts, avec sa fascination pour le processus érotique de la jouissance. Et ça, c'est tout à fait évident. Et ça, on voit ça dans La Bête, dans la musique de base, c'est du Scarlatti. C'est donc le clavecin. Qu'est-ce qu'elle est l'anima, c'est-à-dire l'instrument de musique le plus à même de reproduire la mécanique érotique que le clavecin, et pas seulement à cause du libertinage du 18e siècle. Il y a toujours chez lui cette obsession du fait que l'érotisme ne s'accomplit qu'au contact d'un mécanisme, d'un objet en bon fonctionnement.
Et ça va toujours avec Thanatos, le héros.
Ah oui, puisque ça finit dans la brisure.
L'illustration de ça, c'est son film d'animation, Le Jeu des Anges, qui est entièrement avec des boîtes qu'il a lui-même construit. On entend des bruits de train, si bien que beaucoup d'exégètes ont pensé que c'était un film sur les camps de concentration. Lui ne refuse pas cette lecture-là, mais disait que c'était pas ça qu'il voulait absolument symboliser. Donc il y a ces bruits de train, il y a ces boîtes, et des anges qui sont déchus, car en fait ils sont martelés. Et il y a des bouts d'ailes déchirés, parce qu'à vouloir les rentrer dans les boîtes, même si... Et c'est comme avec son érotisme, c'est-à-dire qu'à aucun moment on voit un ange qu'on essaye de bourrer pour rentrer dans une boîte à trous, mais finalement, ce qu'on voit, c'est la boîte à trous vide, et puis l'ange déchiqueté. C'est ça qui est très intéressant, et c'est le spectateur qui fait le montage, en quelque sorte, des deux images.
Céline ? Ce que je trouve aussi intéressant, c'est de commencer à connaître finalement un cinéaste à travers son cinéma, bien sûr, et cet érotisme nous parle beaucoup de Borowczyk lui-même.
Bien sûr.
Le voyeur, le fétichisme, la manière même dont il a, par exemple, de filmer les sexes féminins, parce qu'on voit globalement peu de sexe masculin.
C'est ce que lui a reproché Fassbinder. Mais qu'est-ce que c'est que ce cinéma où on ne voit pas de sexe masculin en érection ?
On en voit peu.
Même si les concombres en font office.
Les poils pubiens aussi, la manière dont il a de filmer ça. Je pense aussi à cette scène dans Les Contes immoraux avec la comtesse Bathory, où il y a toutes ces femmes qui sont en train de se doucher et de se laver en se caressant le sexe. Là, c'est Borowczyk lui-même qui apparaît sur l'écran quelque part.
Et puis, il faut de la matière. C'est-à-dire que, par exemple, le vrai bain de sang, il a fait venir 150 litres de sang de porc. Il ne s'agit pas de trucage numérique. Il y a une relation à la matière.
Il a fait le sperme de la bête aussi. Il a fait le sperme de la bête.
Absolument.
C'est lui-même
qui
l'a fabriqué.
Et c'est lui qui a fait le costume.
Dernier mot pour conclure, Pascal Horry.
J'allais dire, c'est toute ma jeunesse. Et en y réfléchissant maintenant, en me retournant, j'ose dire, vers cette jeunesse, je trouve que c'était quand même très beau de voir advenir une forme, prononçons les grands mots, de libération, quand même. Et là, le mot surréalisme doit être aussi prononcé.
Absolument,
parce que jusque-là, ce qui était autorisé, c'était effectivement les exercices surréalistes. Et là, le surréalisme triomphait.
Et l'érotisme est une libération. C'est le secret de sa version de Jekyll, par exemple.
Valériane Borowczyk a retrouvé en coffret chez Carlotta, en rétrospective, au Centre Pompidou. On termine cette émission, bien sûr, avec Christophe Beer.
Écrivain, peintre, prostitué. L'épitaphe voulue par Griselidis Réal au cimetière des Rois à Genève, non loin du tombeau de Jean Calvin, était à l'image de toute une vie. Un geste provocateur affirmant sa liberté et son combat. Depuis l'apparition du « Noir est une couleur » en 1974 jusqu'au recueil posthume, nous connaissons sa qualité d'écriture. Mais son engagement total dans la lutte pour le droit à la prostitution et à sa reconnaissance a occulté toute l'activité artistique qu'elle avait déployée pendant plus de deux décennies. Griselidis Réal, peintre, le catalogue raisonné établi par Johan Zuyen et édité par les éditions lausannoises Humus, recense 83 œuvres et éclaire d'une lumière inédite son parcours humaniste. En 1949, décoratrice diplômée de l'École des arts et métiers de Zurich, elle fréquente la bohème artistique genevoise et débute par la peinture sur soie. Elle divorce, enchaîne les petits boulots pour subvenir à la charge de quatre enfants, dessine sporadiquement. Son départ en Allemagne en 1961 marque un tournant. Condamnée à 7 mois de prison pour trafic de stupéfiants, elle vit sa période artistique la plus intense. Sa technique naît des contraintes. On lui refuse son matériel à dessin pendant les 3 premiers mois. Elle ne dispose que de stylos à billes bleues ou de recharges d'encre, récupère toutes les surfaces de papier, dos de lettres, formulaires de prison. Bientôt, elle élargit sa palette chromatique grâce à des stylos noirs, rouges, jaunes et verts et fixe l'encre avec une couche de vernis. Elle utilise aussi les craies à l'huile qu'elle dilue avec de la térébenthine. Elle construit un monde figuratif surchargé ou au contraire épuré, aux couleurs vives, avec des astres, des animaux et des végétaux qui saturent les compositions. Elle mélange le païen et le sacré dans une ambivalence qui surprend. Placée dans un univers merveilleux et exotique, ces madones sont des incitatrices enchanteresses du désir et de l'orgasme. Ces démons cornus, aux dents pointues, la chevelure en flammes, sont bienveillants, signes de force. La nature est un idéal de vie sauvage, peuplé d'oiseaux et de serpents, d'animaux hybrides et d'êtres humains bestialisés. En grande part créée dans des conditions d'emprisonnement, cette œuvre étrange, malgré la formation technique de Griselidis Réal, se situe aux frontières oniriques de l'art brut et érotise la femme comme une figure de force et de liberté. Ce que l'artiste deviendra elle-même, putain militante à la présence magique, se dressant contre les persécutions, et pour qui la prostitution était un art, un humanisme, une science.
Merci Christophe Beer, merci Pascal Horry.
Je suis très content qu'on rende hommage à Griselidis Réal. Pour moi, une grande dame.
Chaque fois qu'il est possible, merci d'avoir été l'invité de Mauvais Genre ce soir pour ce livre que je recommande chaudement, de même que je recommande d'aller à Rome voir la sainte et son ange, jouir comme une sainte et autre volupté. Prochain livre, prochaine volupté, Pascal Horry.
Oh, ce sera un livre sur le face-à-face entre populisme et radicalité.
Oui, effectivement, d'autres jouissances. Hein. Également à retrouver en DVD chez Carlotta en coffret et puis en rétrospective au Centre Pompidou, Valériane Borovchik, toute l'équipe de Mauvais Genre, Laurent Polleré, Catherine Dérété, Claire Martin-Duguerre, Chloé Leblon, Céline Duchesnet, Philippe Rouillet, Christophe Bire et François Angelier vous remercie d'avoir suivi cette émission. On se retrouve samedi prochain de Corps et de Jouissance. Il sera de nouveau question puisque nous nous entretiendrons avec Julia Ducournau, la réalisatrice de Grave. D'ici là, bonne nuit à tous et on retrouve Amir Richardot pour Métronomique.